Introduction. Voici un livre remarquable. Je dis cela comme si j'avais eu très peu de lien avec son écriture. En fait, je n'ai eu qu'à me présenter, qu'à poser des questions, puis qu'à prendre une dictée. C'est ce que j'ai fait depuis 1992, date à laquelle cette conversation avec Dieu a commencé. Cette année-là, angoissé et profondément déprimé, je me suis demandé « Que faire pour que la vie aille bien ?» Et pourquoi cette vie de lutte continuelle? J'ai écrit ces questions sur un bloc-notes jaune de grand format. C'était une lettre de colère adressée à Dieu. À ma grande surprise, Dieu a répondu. La réponse est arrivée sous la forme de paroles murmurées dans ma tête par une voix sans voix. Heureusement, j'ai noté ces paroles. Voilà ce que j'ai fait pendant 6 ans. Et lorsque j'ai appris que ce dialogue personnel deviendrait un jour un livre, j'ai envoyé la première tranche à des éditeurs à la fin de 1994. 7 mois plus tard, les ouvrages se retrouvaient dans les librairies. Au moment où j'écris ces lignes, ce livre fait partie, depuis 91 semaines, des best-sellers relevés par le New York Times. La seconde tranche du dialogue est également devenue un best-seller. Pendant de nombreux mois, elle a aussi figuré dans la liste du Times. Et maintenant, voici la troisième et dernière tranche de cette incroyable conversation. L'écriture de ce livre a duré 4 ans. Elle n'a pas été facile. Les creux entre les moments d'inspiration étaient énormes, et plus d'une fois, ils se sont étendus sur une période de 6 mois, à peu près le temps qu'il a fallu pour que se manifeste le contenu du premier livre. Mais ce dernier volume, j'ai dû l'écrire au moment où j'étais sous les projecteurs. Partout où je suis allé depuis 1996, on m'a demandé « Quand le tome 3 va-t-il sortir ? Où est le tome 3 ? Quand faut-il s'attendre à recevoir le tome 3 ?» Vous pouvez vous imaginer ce que cela m'a fait et les répercussions que cela a eues sur le processus de sa gestation. C'était comme si j'avais fait l'amour sur le monticule du lanceur au Yankee Stadium. En fait, cet acte m'aurait accordé une plus grande discrétion. Au cours de l'écriture du tome 3, chaque fois que je prenais le stylo, j'avais l'impression que 5 millions de personnes m'observaient dans l'attente, suspendues à chaque mot. Je ne dis pas cela pour me féliciter d'avoir achevé ce travail, mais uniquement pour expliquer pourquoi il a exigé autant de temps. Ces dernières années, mes instants de solitude mentale, spirituelle et physique ont été très rares et espacés. J'ai commencé ce volume au printemps 1994, et tout le début de la narration a été écrit durant cette période. La suite s'étale sur plusieurs mois, saute une année entière, pour finalement culminer avec l'écriture des derniers chapitres au printemps et à l'été de 1998. Vous pouvez au moins être sûr d'une chose. Ce livre n'a nullement été bâclé. Ou bien l'inspiration venait clairement, ou bien je me contentais de déposer le stylo et refusais d'écrire. Dans un cas, pendant plus de 14 mois. J'étais déterminé à ne produire aucun livre plutôt que de le faire pour respecter l'obligation que je m'étais donnée. Mon éditeur était quelque peu tendu, mais mon attitude m'a permis de travailler avec confiance, même s'il a fallu y mettre le temps. Je vous présente donc ce livre en étant tout à fait rassuré. Il résume les enseignements des 2 premières tranches de cette trilogie et les amène à leur conclusion logique et renversante. Si vous avez lu la préface de l'un des 2 premiers tomes, vous savez que dans chaque cas, je ressentais une certaine appréhension. En fait, je craignais l'éventuelle réaction que provoqueraient ces écrits. Je n'ai plus cette peur. Je n'ai aucune inquiétude en ce qui concerne le tome 3. Je sais que sa profondeur et sa vérité, sa chaleur et son amour toucheront un grand nombre de lecteurs. Pour moi, c'est là un ouvrage spirituel et sacré. Je m'aperçois que c'est vrai de la trilogie entière. Et ces livres seront lus et étudiés pendant des décennies, par des générations entières. Pendant des siècles, peut-être. Dans sa totalité, la trilogie couvre une gamme étonnante de sujets, passant des relations personnelles à la nature de la réalité ultime et à la cosmologie universelle. Elle nous livre des observations sur la vie, la mort, l'amour, le mariage, le sexe, le fait d'être parent, la santé, l'éducation, l'économie, la politique, la spiritualité et la religion, le travail et la façon juste de vivre, la physique, le temps, les mœurs et coutumes sociales, le processus de la création, notre relation avec Dieu, l'écologie, le crime et le châtiment, la vie dans les sociétés hautement évoluées du cosmos, le bien et le mal, les mythes culturels et l'éthique culturelle, l'âme, les âmes sœurs, la nature de l'amour authentique et l'expression glorieuse de cette part de nous-mêmes qui sait que la divinité est notre héritage naturel. Puissiez-vous tirer des bienfaits de ce travail. Soyez bénis. Neil Donald Walsh, Ashland, en Oregon, septembre 1998. Chapitre 1. Question. Nous sommes le dimanche de Pâques 1994, et me voici, stylo à la main, selon les instructions. J'attends Dieu. Il a promis de se présenter, comme elle l'a fait les deux derniers dimanches de Pâques, pour commencer une autre conversation d'un an, la troisième et dernière jusqu'ici. Ce processus, cette communication extraordinaire, a commencé en 1992. Il sera terminé à Pâques 1995. 3 ans, 3 livres. Le premier traitait de sujets largement personnels. Comment entretenir nos relations amoureuses, comment trouver le travail qui nous convient, comment gérer les puissantes énergies de l'argent, de l'amour, du sexe et de Dieu, et comment les intégrer à notre vie quotidienne. Le deuxième élargissait cette thématique, allant jusqu'à des considérations géopolitiques majeures, la nature des gouvernements, la création d'un monde sans guerre, la base d'une société internationale unifiée. Cette troisième et dernière partie de la trilogie fera le point, me dit-on, sur les questions les plus grandes auxquelles l'homme est confronté, les autres mondes, les autres dimensions, et la façon dont s'accorde ce complexe entrelacement. La progression a été la suivante. Premier point, vérité individuelle. Deuxième point, vérité planétaire. Troisième point, vérité universelle. Comme c'était le cas dans les deux premiers manuscrits, je ne sais absolument pas où tout cela mène. Le processus est simple. Je place le stylo sur le papier, je pose une question et j'observe les pensées qui me viennent à l'esprit. S'il n'y a rien, si on ne me transmet aucune parole, je dépose le tout jusqu'à un autre jour. Le processus entier a duré environ 1 an dans le cas du premier livre, plus d'un an pour le second. Ce deuxième livre est encore en cours de processus au moment où celui-ci commence. Je m'attends à ce que celui-ci soit le plus important des trois. Pour la première fois depuis le début, ce processus me gêne beaucoup. 2 mois se sont écoulés depuis que j'ai écrit ces 4 ou 5 premiers paragraphes. 2 mois depuis Pâques et rien n'est venu, uniquement que de la gêne. J'ai passé des semaines à réviser et à corriger les épreuves du premier livre de cette trilogie, et cette semaine, je viens tout juste de recevoir la version finale du tome 1, que j'ai dû renvoyer à la typographie, avec 43 erreurs distinctes à corriger. Entre-temps, le deuxième livre, encore sous forme manuscrite, n'a été achevé que la semaine dernière, après 2 mois de retard au calendrier. Il était censé être prêt avant Pâques 1994. Ce livre-ci, commencé le dimanche de Pâques en dépit du fait que le tome 2 n'était pas terminé, a langui depuis lors dans sa chemise. Depuis que le tome 2 est terminé, il réclame de l'attention. Mais pour la première fois depuis 1992, année à laquelle tout cela a commencé, j'ai l'impression de résister à ce processus, d'en être presque contrarié. Je me sens piégé par cette mission et je n'ai jamais aimé agir par obligation. De plus, ayant distribué à quelques personnes des exemplaires non corrigés du premier manuscrit et ayant entendu leur réaction, je suis convaincu à présent que ces 3 livres seront lus par un large public, examinés à fond, analysés d'après leur pertinence théologique et soumis à des débats passionnés pendant des décennies. C'est donc à grand-peine que je suis arrivé à cette page-ci. J'ai beaucoup de difficultés à considérer ce stylo comme mon ami, car même si je sais qu'il faut transmettre cette matière, je sais aussi que je m'expose aux attaques les plus virulentes, au ridicule, et peut-être même à la haine de bien des gens pour avoir osé publier cette information, et beaucoup moins pour avoir osé annoncer qu'elle me vient directement de Dieu. Ma grande peur est de m'avérer inadéquate et impropre en tant que porte-parole de Dieu, étant donné la série apparemment interminable d'erreurs et de fautes qui ont marqué ma vie et caractérisé mon comportement. Ceux qui m'ont connu dans le passé, y compris mes ex-épouses et mes propres enfants, auraient tous les droits d'intervenir pour dénoncer ces écrits en invoquant ma piètre performance en tant qu'être humain dans les fonctions simples et rudimentaires d'époux et de père. J'ai misérablement échoué dans ces domaines et dans d'autres aspects de la vie, comme l'amitié et l'intégrité, l'application et la responsabilité. Bref, je suis profondément conscient de ne pas être digne de me présenter à nouveau en tant qu'homme de Dieu ou messager de la vérité. Je devrais être la dernière personne à assumer ce rôle ou même à se l'octroyer. je commets une injustice en me permettant de parler de vérité, alors que toute ma vie témoigne de mes faiblesses. Pour ces raisons, Dieu, je te demande de me décharger de mes obligations de scribe et de trouver quelqu'un qui soit digne d'un tel honneur, en raison de la vie qu'il a menée. Réponse. J'aimerais terminer ce que nous avons commencé ici, même si tu n'es pas tenu de le faire. Tu n'as aucune obligation envers moi ni envers qui que ce soit, mais je vois que tu es néanmoins convaincu du contraire et que cette idée t'a donné un grand sentiment de culpabilité. Question. J'ai abandonné des gens, y compris mes propres enfants. Réponse. Tout ce qui est arrivé dans ta vie l'a été d'une manière parfaite, comme il se devait pour que tu grandisses exactement selon tes besoins et ta volonté, ainsi que pour toutes les âmes engagées avec toi. Question. C'est l'excuse habituelle qu'inventent tous les gens du nouvel âge pour fuir la responsabilité de leurs gestes et éviter tout résultat désagréable. Je sens que j'ai été égoïste, incroyablement égoïste. Pendant la plus grande part de ma vie, j'ai fait ce qui me plaisait sans penser aux autres. Réponse. Il n'y a rien de mal à faire ce qui te plaît. Question. Mais tant de gens ont été blessés, abandonnés. Réponse. La seule question qui importe, c'est « qu'est-ce qui te plaît le plus ?» Tu sembles dire que ce qui te plaît le plus à présent, ce sont des comportements qui font peu de tort ou n'en font aucun aux autres. Question. C'est le moins qu'on puisse dire. Réponse. Je l'ai fait exprès. Tu dois apprendre à être bienveillant envers toi-même et à cesser de te juger. Question. C'est difficile, surtout quand les autres sont si enclins à juger. J'ai l'impression que je vais te porter atteinte à toi et à la vérité, que si j'insiste pour achever et publier cette trilogie, je serai un si piètre ambassadeur de ton message que je le discréditerai. Réponse. Tu ne peux discréditer la vérité. La vérité, c'est la vérité. Elle ne peut être ni confirmée ni infirmée. Elle est, tout simplement. La merveille et la beauté de mon message ne peuvent être affectées parce que les gens pensent de toi et ne le sauront pas. En effet, tu es l'un des meilleurs ambassadeurs car tu as vécu ta vie d'une façon que tu trouves imparfaite. Les gens peuvent te comprendre, même s'ils te jugent. Et s'ils voient que tu es vraiment sincère, ils peuvent même te pardonner ton passé sordide. Et pourtant, je te dis ceci. Tant que tu ne t'inquiéteras de ce que les autres pensent de toi, tu seras en leur pouvoir. Ce n'est que lorsque tu n'auras plus besoin de l'approbation de personne que tu pourras assumer ton propre pouvoir. Question. Je m'inquiétais davantage du message que de moi. Je m'inquiétais du fait que le message soit terni. Réponse. Si tu es inquiet à propos du message, alors publie-le. Ne te demande pas si tu le ternis. Le message parlera de lui-même. Rappelle-toi ce que je t'ai enseigné. L'important n'est pas tellement la façon dont un message est reçu que celle dont il est transmis. Rappelle-toi également ceci. Tu enseignes ce que tu as à apprendre. Il n'est pas nécessaire d'avoir atteint la perfection pour parler de celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'avoir atteint la maîtrise pour parler de celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'avoir atteint le niveau le plus élevé de l'évolution pour parler de celle-ci. Ne cherche qu'une chose, l'authenticité. Cherche à être sincère. Si tu veux défaire tout le tort que tu t'imagines avoir fait, démontre-le par tes gestes. Fais ce que tu peux, puis laisse reposer les choses.